Radio Kapi.
Le journal, c'est avec Jean-Désiré Kanyama.
Donner son sang est un geste d'amour qui sauve des vies, une chance de surmonter une nouvelle crise et de continuer à vivre pour les drépanocytaires. Message de quelques responsables des centres de transfusion sanguine de la République démocratique du Congo à l'occasion de la célébration ce dimanche 14 juin de la journée mondiale des donneurs de sang. Nord Kivu, de violents affrontements signalés vendredi dernier et hier samedi, notamment dans plusieurs villages du territoire de Walikale, entre les rebelles de l'AFC M23 et les combattants Wazalendo, Alio et FARDC. La tension est restée vive et volatile ce dimanche dans ce village, rapportent les sources locales. L'invité de ce journal est le médecin coordonnateur du Centre provincial de transfusion sanguine au Maniema, Dr Jean Bouré-Dissenga, dénonce que le centre ne dispose d'aucune poche de sang pendant près de 6 mois maintenant. Voilà pour le titre, les détails dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Célébration ce dimanche 14 juin de la Journée internationale des donneurs de sang. Une journée qui revêt une importance particulière pour les drépanocytaires, notamment à Matadi, dans la province du Congo central. Souvent confrontées à des crises sévères, elles ont régulièrement recours à la transfusion sanguine. Pour ces patients, chaque poche de sang représente bien plus qu'un simple don. C'est un espoir de survie, une chance de surmonter une nouvelle crise et de continuer à vivre. Des détails avec Élise Kavira.
Surnommée la maladie de la douleur en raison des crises aiguës qu'elle provoque, la drépanocytose, également appelée anémie SS, peut devenir handicapante au quotidien. Selon les malades interrogés, certaines crises sont d'une intensité telle que seule une transfusion sanguine permet d'apporter un véritable soulagement et d'éviter des complications graves. Un témoignage partagé ici par Aude Mbala, jeune médecin, lui-même concerné aussi par cette maladie.
Je peux dire de 2009 à 2022, chaque année, on me transfusait parfois une fois, parfois deux fois par an. Alors, à eux qui ont cette grâce-là de pouvoir donner du sang, je leur dirais de continuer en tout cas, parce que le sang sauve beaucoup de personnes dans le monde. Ça intervient dans plusieurs complications.
Pour le docteur Debs Nzoa-Ubamona, coordonnateur provincial du Centre provincial de transfusion sanguine, cette journée rappelle que le don du sang est un acte citoyen qui nous concerne tous.
C'est l'occasion de dire à tous les donneurs bénévoles de sang de faire des dons de façon régulière. Tous les groupes sanguins peuvent donner du sang. Il n'y a pas d'exception.
Le docteur Debs Nzoa-U invite la population de Matadi à participer massivement à la campagne de collecte de sang qui se tiendra le mercredi 17 juin au Centre provincial des transfusions sanguines à Matadi. Depuis Matadi, Élise Kavira, Radio Kapi.
Si la conscience collective est au rendez-vous, aucun malade ne peut mourir par manque de sang. C'est le message lancé ce dimanche par le responsable du Centre de transfusion sanguine à Butembo, au Nord Kivu. Le docteur Christian Kambale Risangé rappelle que donner son sang est un geste d'amour qui sauve des vies, surtout dans une région où les besoins restent immenses du fait des crises sécuritaires et humanitaires. Il appelle la population de Butembo et des environs à se mobiliser pour les dons de sang afin de sauver des vies. Docteur Christian Kambale s'est confié à Marc Marofimbo.
Dans la province du Nord Kivu, les défis liés à l'accès du sang sécurisé demeurent persistants. Les situations d'urgence médicale, de pathologies fréquentes comme le paludisme grave, la malnutrition, les complications obstétricales accentuent cette demande. Et cela s'ajoute à des crises humanitaires et des conflits armés qui augmentent considérablement le besoin en transfusion sanguine dans notre contrée. D'où la nécessité de nous unir pour donner du sang afin de secourir les vies humaines en besoin. Être solidaire avec les malades, ne pas seulement aller les rendre visite, les amener de vivre et de nous vivre, mais c'est aussi donner de son sang pour faciliter la guérison de ces malades qui ont besoin de ce sang pour sauver leur vie. Et nous sollicitons aux habitants de la ville de Butembo et ses environs de se mobiliser massivement pour venir donner du sang au CTS Butembo. Si la conscience collective est là, aucun malade réellement ne peut mourir par manque de sang.
Et toujours dans ce chapitre sanitaire, l'épidémie d'Ebola est bien réelle et continue de faire des victimes en Ituri. La population doit prendre conscience de la gravité de cette maladie et respecter scrupuleusement les mesures de prévention. C'est l'appel lancé samedi par un habitant de Bounia qui affirme avoir perdu 6 membres de sa famille emportés par Ebola. Selon lui, si la population continue à minimiser les risques et à résister aux mesures de riposte, la situation pourrait se transformer en catastrophe sanitaire. Il demande également aux autorités de renforcer les actions de lutte contre l'épidémie. Pour des raisons de sécurité, il a requis l'anonymat. Il est au micro d'Isaac Rémoyopé.
La maladie existe, il faudrait que les personnels soignants ou encore les gouvernements et les partenaires puissent faire tout moyen pour rompre la chaîne de contamination parce que ce que nous voyons risque d'être une catastrophe sanitaire au niveau de la province. Par jour, on ne cesse d'enterrer plus de 10 personnes, 15 personnes, c'est déjà trop. Nous avons déjà perdu plus de 6 personnes dans la famille depuis le début de l'épidémie. C'est pourquoi j'ai dit que le gouvernement et les partenaires doivent veiller à la prise en charge adéquate pour limiter, disons, le nombre de décès. Parce que si nous évoluons comme ça, nous risquerons d'arriver à un moment où nous aurons une catastrophe sanitaire, ce qui ne va pas être bon.
Au Nord Kivu, la tension est restée vive et volatile ce dimanche dans plusieurs villages des groupements Walowa Yungu, Lubirike et Kisimba, dans l'est du territoire de Walikale, secteur de Wanyanga. Selon des sources locales, ces entités ont été le théâtre, vendredi dernier et hier samedi, des violents affrontements entre les rebelles de l'AFC M23 et les combattants Wazalendo alliés au FRDC. Les détails avec Jean Gandou.
Des attaques attribuées à des drones militaires de l'AFC M23 ont fait au moins 4 morts et 7 blessés parmi les civils. D'après des notabilités locales, le village de Bouimba, dans le groupement des Walowa Yungu, a été visé samedi vers 15h. Occupé depuis une semaine par les Wazalendo après la reprise de la localité aux rebelles, le village aurait subi une frappe ayant coûté la vie à un civil. Des tirs nourris des Wazalendo en riposte ont provoqué la panique au sein de la population. La veille, un autre bombardement aurait frappé le village de Mouchali, près de Kachébéré, dans le groupement voisin de Lubérique. C'est là que 3 civils, dont une femme enceinte, ont été tués et 7 autres blessés. Une victime grièvement atteinte a été évacuée vers Beni, selon les mêmes sources. Par ailleurs, des nouveaux combats ont éclaté samedi à Luola, dans le groupement Kisimba. Des rebelles auraient attaqué les positions de Wazalendo dès les premières heures de la matinée, accentuant la psychose dans les villages voisins de Minjenje et Mpeti, où s'étaient déjà réfugiés des habitants de Luola. Ces violences surviennent après près d'une semaine d'accalmie. Selon des sources administratives et coutumières, l'AFC M23, qui occupe actuellement au moins 3 localités de Kisimba, chercherait à étendre son influence dans la zone.
Et puis, la Journée internationale de la machine à coudre a été célébrée hier samedi 13 juin. À Beni, au Nord Kivu, des milliers de couturiers et couturières ont envahi le boulevard Nyamwisi pour marquer l'événement dans une ambiance festive. Cependant, ces professionnels de l'habillement déplorent l'insécurité persistante dans la région qui impacte négativement leur métier. Feza Masika, présidente de la corporation de tailleurs en ville et territoire de Beni, revient sur l'importance de cette journée au micro de Marc Marofimbo.
Chez la femme, cela a changé la façon de se prendre en charge. Par exemple, une femme mariée, elle aide aussi à l'économie de son foyer. Elle épaule son mari dans certaines étapes de leur vie, par exemple pour l'économie de la famille. En tout cas, la situation sécuritaire touche notre secteur parce que nos clients sont ceux qui sont en insécurité. Par exemple, les cultivateurs, lorsqu'ils cultivent, ils vendent leurs produits dans les marchés, ils obtiennent quelque chose, ils vont acheter les habits, ils amènent chez nous et nous confectionnons les habits pour eux. À ce moment-là, nous aidons les cultivateurs. Malheureusement, quand il y a insécurité, les uns sont morts, les autres sont kidnappés, les autres sont déplacés. Nous aussi, nous sommes devenus des vulnérables comme nos clients qui subissent l'insécurité dans notre ville. Le message que je peux adresser à la jeunesse, il faut que nos jeunes apprennent les métiers. Si ce n'est pas de la couture, ils peuvent apprendre aussi d'autres métiers.
Restons au Nord Kivu. La pénurie d'eau potable affecte désormais les structures sanitaires de l'agglomération de Kibirizi, dans le groupement de Moutandan, chefferie de Buito, territoire de Rutshuru. La situation suscite l'inquiétude des habitants qui dénoncent l'assèchement depuis plus d'un mois de toutes les bornes fontaines aménagées par des organisations humanitaires. Face à cette crise qui impacte la vie quotidienne et les services de santé, la population appelle à une intervention d'urgence. Les détails avec Bernard Nyangui.
Aujourd'hui, je me suis réveillé à 3h du matin pour aller chercher de l'eau à Kabanda. Je reviens pourtant avec mes bidons vides, car l'eau ne coule qu'au compte-gouttes, témoigne une habitante. Cette situation est aggravée par l'afflux des milliers de personnes déplacées dans la zone, explique Mme Giseline Kaindo, membre de la société civile de Kibirizi. Elle appelle à une intervention de toute urgence.
Ces déplacements nocturnes exposent les femmes à notamment des agressions sexuelles. La situation est aggravée par l'afflux massif de personnes déplacées, exerçant une pression supplémentaire sur les ressources en eau des gens insuffisantes. Dans les établissements de santé, les patients passent souvent des jours sans se laver et des cas de décès par déshydratation ont été recensés. La population de Kibirizi demande une assistance d'urgence.
Selon le comité local d'adduction d'eau de Kibirizi, cette pénurie dure depuis plus d'un mois. Kamat Zakari, membre du dit comité, indique que 3 nouveaux captages de renforts ont récemment été aménagés dans les montagnes de Kanyati qui surplombent l'agglomération. Toutefois, le manque de tuyaux destinés au réseau de transport empêche encore leur interconnexion avec l'ancien ouvrage d'adduction installé par Mercicor.
Sous un autre chapitre, le barrage hydroélectrique de Kisangani est menacé par l'érosion. En cause, l'occupation anarchique du site sur lequel est érigé l'ouvrage, pourtant classé comme aire protégée. Selon la société civile locale, cette situation pourrait entraîner d'importantes conséquences environnementales. La question a été au cœur d'une tribune populaire organisée vendredi dernier au centre pastoral de Kisangani. Le point avec Jacques Moukonkoulé.
En dépit de la suspension de l'arrêté provincial autorisant le lotissement de ce site, la destruction de la boucle de la Tchopo se poursuit. Face à cette spoliation, au mépris de la décision du gouverneur, la société civile refuse de baisser les bras. François Lemba, chargé de programme au sein du groupe de travail pour la décentralisation et les élections, explique le but de leur mobilisation.
La population identifie, qui comprenne quels sont les problèmes qui se posent, les menaces, les défis et les enjeux de la boucle de la Tchopo.
L'enjeu dépasse les frontières de Kisangani. La RDC s'est engagée à réserver 30% de son territoire aux couverts forestiers d'ici 2030, déclare le professeur Alphonse Maindo. Pour y contribuer localement, le directeur des Tropenbos RDC propose 3 actions urgentes à mener.
Il s'agit d'abord d'obtenir l'annulation pure et simple de l'arrêté qui a autorisé cet allotissement. Deuxième action, c'est de mobiliser les ressources nécessaires des partenaires pour qu'on puisse restaurer cette réserve. Et en troisième lieu, donc ce sont ces gens-là qu'il faut maintenant aussi faire pour le neutraliser.
Ce point de vue est soutenu par Obem Balanga, expert environnemental. Selon lui, il est temps de passer à la vitesse supérieure en utilisant la manière forte. La balle est désormais dans le camp de la justice. Suspendre l'arrêté était un premier pas, mais seule la force de la loi pourra stopper définitivement les spoliateurs sur le terrain. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
À Lubumbashi, l'entreprise minière Chemaf a laissé des communautés confrontées à des graves défis environnementaux après la cessation de ses activités en novembre 2025, rapporte l'Institut de recherche en droits humains. Selon le communiqué de presse de cette organisation de défense des droits de l'homme, publié vendredi dernier, les habitants du camp Chamilemba dans la commune de Kampemba dénoncent une pollution persistante de l'eau, de l'air et du sol. Des bassins de rejet d'effluents acides abandonnés par cette entreprise minière deviennent accessibles à la population et présentent un danger permanent. Le point avec Pone Munanga.
Dans une enquête menée par une équipe de l'IRDH qui est descendue sur le terrain, 3 grands bassins contenant des rejets acides provenant des usines de Chemaf se trouvent à moins de 10 mètres des habitations de Chamilemba. D'après les habitants du quartier, l'eau des puits est suspectée d'être polluée. Il y a des maladies cutanées qui sont visibles et des problèmes respiratoires. Quelques habitants s'expriment. Auparavant, nous étions en train de consommer l'eau des puits de Chamilemba. Mais actuellement, les gens ne creusent plus des puits parce que les acides des Chemaf sont encore là malgré le départ de cette entreprise. L'entreprise minière Chemaf n'a laissé rien d'essentiel à la population. Les bassins de rejet abandonnés par l'entreprise Chemaf présentent un grand danger pour la population. Maître Jérémy Madiela est chercheur à l'IRDH.
Après le départ de Chemaf en novembre 2025, ces bassins sont laissés à proximité des habitations sans protection. Ces bassins font donc l'objet des endroits où les enfants passent et repassent pour de jets et avec un grand danger.
Aucune réaction du côté de l'entreprise Chemaf. Après plus de 20 ans d'existence, l'entreprise Chemaf a été rachetée par la société minière américaine Virtus Minerals en mars 2026 qui a accepté de respecter l'intégralité du passif de cette entreprise. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Afrique du Sud, des voix s'élèvent contre la xénophobie grandissante. La peur grandit au sein des populations originaires d'autres pays du continent face aux tensions xénophobes. Les organisations anti-immigration illégale se focalisent sur la date du 30 juin pour exiger le départ de toutes les personnes en situation irrégulière. Des milliers de ressortissants malawites ont déjà fui leurs habitations de la région de KwaZulu-Natal pour se rassembler dans un espace public à Durban dans l'attente d'un possible rapatriement.
L'invité.
Il s'agit du médecin coordonnateur du Centre provincial de transfusion sanguine au Maniema. Docteur Jean Bourédi parle de ce paradoxe dans cette province où le Centre provincial de transfusion sanguine ne dispose d'aucune poche de sang pendant près de 6 mois maintenant. Il évoque les conséquences que cela entraîne dans la communauté. Docteur Jean Bourédi Senga s'entretient avec Florence Kizalunga.
Docteur Jean Bourédi, bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
Nous sommes au centre provincial de la transfusion sanguine. Vous alertez qu'il n'y a aucune poche de sang et cela depuis 6 mois.
La rupture que nous constatons aujourd'hui, qui va faire bientôt 6 mois, ce n'est pas normal que ça soit ainsi. Parce que dans l'approvisionnement donc, et la disponibilité même des poches de sang, si vous avez un retard, c'est de 8 jours qui peut être tolérable. Mais voyez-vous déjà, nous sommes au-delà de 6 mois presque, et c'est pas quand même tolérable.
Ce n'est pas tolérable. Est-ce que vous vous imaginez les conséquences dans la communauté?
Oui, nous prenons l'ampleur de la chose parce que comme nous qui sommes habilités à disponibiliser le sang, nous manquons, dans la communauté, il y aura beaucoup de cas de transfusion non contrôlés qui ne sont pas qualifiés et surtout il y a de ces structures-là qui ne sont pas aussi autorisées à transfuser, qui profitent de ce manque d'intrants qui font à ce que nous puissions entrer en rupture pour la transfusion des sang.
Vous ne serez pas d'accord avec ceux-là qui disent qu'ils partent à l'hôpital pour X maladie et reviennent avec Y maladie?
C'est d'ailleurs même parmi les conséquences qui découlent pour une transfusion non sécurisée, une transfusion non qualifiée, et ça amène toujours à des maladies et que la personne au départ n'avait pas, parce que quelqu'un, ça peut s'agir d'un enfant, des personnes adultes qui vont à l'hôpital et qui nécessitent une transfusion pour une anémie qui s'installe. Il y a ces sangs-là qui ne sont pas qualifiés. Quelqu'un peut contracter facilement le VIH avec ces sangs-là. Quelqu'un peut aussi avoir, par exemple, une hépatite aussi pour les sangs qui n'est pas qualifié. Et même, pourquoi pas, ce que nous appelons aussi la syphilis. On peut aussi contracter ça parce que quand on a eu un sang qui n'est pas vraiment bien testé, ça donne toutes ces maladies et qui font aussi mal dans la santé.
Est-ce que vous avez les retours du gouvernement central parce que le gouvernement congolais vous a doté de deux frigos d'une capacité de 240 litres. Et vous pensez, avec le retour du gouvernement, cette situation prendra combien de temps?
Merci beaucoup, madame. Parce que vous savez, nous sommes une coordination et nous dépendons aussi du niveau central, bien que la province peut aussi venir en appui. Au niveau central, nous sommes alertés qu'il y a déjà des intrants qui viennent d'arriver. Nous entendons que cela soit déployé dans les province et sûrement aussi pour la part du Maniema, il y en aura. Et dès que nous sommes servis, je pense que nous allons reprendre notre fonctionnement normal.
Cette rupture handicape combien de structures de santé qui s'approvisionnent auprès de vous?
Actuellement ici, dans la ville de Kindu d'abord, si on prend ça, il y a 4 structures qui doivent venir s'approvisionner ici chez nous. Je peux citer déjà l'hôpital général de référence de Kindu, il y a l'hôpital général de référence d'Alunguli, nous avons le centre hospitalier Lumbulu et le centre médical Kitulizo Bedoem. Ces 4 structures-là viennent quand même s'approvisionner ici chez nous.
Qu'en est-il alors des associations de donneurs bénévoles de sang que vous travaillez avec eux? Est-ce que vous êtes en mesure de les mobiliser en cette période pour donner les sang? Je pense non.
En tout cas, la mobilité de ces associations de donneurs bénévoles de sang, ces derniers temps, nous ne sommes pas en mesure de les faire. Pourquoi? Parce que il est vrai que les sang, on ne les vend pas, et les sang se donne gratuitement, parce que donner les sang, c'est donner la vie, comme on le dit. Alors, pour ces associations-là, il faut quand même les frais pour les ramener ici. C'est ici où nous sommes appelés à prélever. Bien qu'on peut faire aussi des séances de prélèvement mobile, on peut aller aussi vers les associations, mais pour les ramener ici, il faut quand même qu'il y ait des frais. On ne peut pas quand même déplacer des gens de chez eux et les ramener ici sans pour autant même payer pour eux les transports. Donc, nous avons aussi cette difficulté-là pour mobiliser ces associations afin qu'ils puissent quand même donner du sang pour sauver des vies.
Vu cette situation alarmante, que peut être vraiment une priorité pour le ministère national de la Santé pour ces centres ici?
L'État doit quand même amplifier l'approvisionnement. Ça doit être vraiment et de manière régulière que nous soyons approvisionnés en entrant pour qu'il n'y ait pas de reptiles. Et aussi les partenaires de l'État peuvent aussi voir ces centres pour venir nous booster pour que nous puissions disponibiliser les sang pour les malades.
Docteur Jean Bourédi Senga, merci.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Notre invité, le médecin coordonnateur du Centre provincial des transfusions sanguines au Maniema, docteur Jean Bourédi Senga, s'entretenait à Kindu avec Florence Kizalunga. 18h20 à Kinshasa, c'est la fin de ce journal. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales des Radio Okapi.